Bonjour à tous. Lors du dernier message que j'avais donné ici, j'avais abordé le premier chapitre de la première épître de Jean et aussi les deux premiers versets du deuxième. Et nous avions vu ensemble que dans ce chapitre, Jean exhorte les chrétiens auxquels il s'adresse, auxquels il écrit, à marcher dans la lumière. Vous vous rappelez cette expression de marcher dans la lumière? Et ceci particulièrement en réaction contre certains faux docteurs qui s'étaient éloignés de la doctrine des apôtres et qui troublaient les églises par leurs enseignements, par des enseignements pernicieux qui préfiguraient la grande hérésie qui allait prendre beaucoup d'ampleur au IIe siècle, qui s'appelle le gnosticisme. Ces faux docteurs enseignaient que le corps était de toute façon mauvais et que seul comptait la vie spirituelle. Dès lors, on pouvait se permettre de faire à peu près n'importe quoi avec son corps, et notamment de s'adonner à toute forme de péché. Alors Jean affirme que cet enseignement et ses conséquences sont catastrophiques. Vivre ainsi, c'est en fait marcher dans les ténèbres. Au contraire, nous sommes exhortés à marcher dans la lumière, c'est-à-dire marcher en fait comme Christ a marché dans ce monde, en nous gardant purs du péché. Jean est cependant parfaitement réaliste, et il sait bien que lavés par le sang de Jésus, nous restons pécheurs, et qu'il nous arrive de pécher, mais cela doit rester chez le chrétien accidentel, et en tout cas, entraîner la confession immédiate du péché commis dans une réelle repentance. Et nous avons vu que cette attitude, c'est aussi marcher dans la lumière. En revanche, ne pas reconnaître quand on a péché, et surtout ne pas renoncer au type de péché qui nous fait tomber, qui nous a fait tomber, c'est marcher dans les ténèbres. Et nous avons vu que ce comportement nous prive de la communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Alors, la lecture de cette première épître de Jean, pour ceux qui l'ont lue, est un peu déroutante pour un lecteur du XXIe siècle. Parce que les sujets qui y sont traités sont entremêlés et non pas exposés par ordre. On n'a pas l'habitude, nous, de dire les choses comme ça quand on écrit actuellement. Cette technique littéraire est typique des auteurs juifs et elle permet de revenir plusieurs fois sur la question traitée en la précisant chaque fois un peu plus et surtout de montrer que toutes ces questions ne sont pas indépendantes les unes des autres, mais qu'elles sont liées spirituellement. Et c'est là toute la beauté, si je puis dire, de cette façon d'écrire, que l'on trouve particulièrement dans cette épître, aussi dans l'épître de Jacques, par exemple. Alors, Jean développe dans cette lettre trois thèmes principaux. Il y a le thème du péché et de l'obéissance, le thème de l'amour et de la haine, le thème de l'erreur et de la vérité. Et le message d'aujourd'hui, que je vais vous donner, comme la dernière fois, porte sur le thème du péché et de l'obéissance. Et nous allons commencer notre lecture au chapitre 2 et au verset 28. Donc, première épître de Jean, au chapitre 2, au verset 28. Mes enfants, demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. Vous savez que le Christ est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas, ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure en lui cesse de pécher, et celui qui continue à pécher ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pèche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Et on va lire encore tout à fait à la fin de l'Épître, au chapitre 5, quelques versets qui concernent aussi la question du péché. Au chapitre 5, verset 16. Donc 1 Jean 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort, mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car le Fils de Dieu le protège. Aussi, l'esprit du mal ne peut-il rien contre lui. Nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe de l'esprit du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, je reprends notre chapitre 2. On avait donc commencé au verset 28. Mes enfants, demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux, loin de lui, au moment de sa venue. Donc on voit que Jean exhorte ses lecteurs à rester attachés au Christ, et ceci en rapport avec son retour, lorsqu'il paraîtra. Si nous demeurons attachés à lui, nous serons remplis d'assurance lors de ce moment béni et glorieux. Dans le cas contraire, nous serons honteux et loin de lui. Une telle parole peut nous paraître étonnante, mais nous allons voir que Jean met les exhortations qui suivent en rapport avec la seconde venue de Christ, qu'il appelle sa manifestation. Au verset 29, « Vous savez que le Christ est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. » Le Christ est juste par nature, indemne de tout péché, et c'est pour cela qu'il a pleinement glorifié le Père lors de sa venue, lors de sa vie d'homme sur cette terre. Et aussi, qu'il a pu, lui, la victime sans péché, mourir à notre place pour payer la dette de notre péché. Et Jean en tire la conséquence pratique que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Il nous donne là un critère qui nous permet de reconnaître les enfants de Dieu. Le chapitre 3, les trois premiers versets, commencent par « Voyez combien le Père nous a aimés, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Le même Jean a écrit au début de son évangile, au chapitre 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas des sangs, c'est au pluriel dans le texte original, les sangs, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. » Alors pourquoi les sangs? Probablement une image du capital génétique des deux parents qui fusionnent pour donner un bébé. Alors que là, c'est littéralement la semence de Dieu qui nous fait renaître, comme on l'a vu au verset 9 où Jean écrit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » Et ce mot, la semence de Dieu, dans le texte original, c'est sperma. Hein, donc oui, c'est vraiment très, très précis. Hein. C'est bien la semence de Dieu. Nous sommes vraiment nés de Dieu, génétiquement nés de Dieu par la nouvelle naissance. Ce n'est pas une simple image. C'est un don de l'amour de Dieu, un cadeau totalement immérité. Est-ce que nous réalisons un peu cette parole incroyable ? Nous sommes véritablement enfants de Dieu, de la semence de Dieu. Quel privilège, hein, immense et glorieux, mais aussi quelle responsabilité. On a lu « Le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu, il n'a pas connu Jésus-Christ ». Qu'est-ce que ça signifie ? Le monde ne nous connaît pas. Mes voisins me connaissent, mes collègues de travail me connaissent, mes amis aussi, mon conjoint me connaît. Eh bien, les gnostiques, dans l'époque de Jean, là, prônaient les vertus de la connaissance. C'est le sens du mot la gnose, hein, la connaissance, la gnose. C'est sans doute pour cela que Jean utilise ce verbe. Cela signifie que notre nature d'enfant de Dieu est totalement étrangère au monde. Il n'y a aucune communion possible entre la lumière et les ténèbres. De même que la plupart des contemporains de Jésus, son peuple pourtant, ne l'ont pas reconnu. Et l'ont rejeté. Le verset 2, « Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Car nous le verrons tel qu'il est. Cette partie du verset fait de nouveau allusion à la manifestation de Jésus. C'est cette perspective qui oriente les exhortations de Jean, comme on l'a vu au chapitre 2, verset 28. Rappelez-vous que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, en Matthieu 5, au verset 8, « Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. » Ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Gloire à Dieu de ce qu'il a effectivement purifié nos cœurs par le sang de son Fils. La perspective de notre transformation à l'image du Christ lors de son retour crée en nous un désir de lui ressembler de plus en plus dès à présent. Le verset 3, « Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. » Littéralement, « quiconque a cette espérance sur lui », dans le texte grec c'est la préposition « sur » qui est utilisée, avec un cas qui s'appelle le datif, hein, ça veut dire une position dont on ne bouge pas, comme appuyé sur un socle ou sur un fondement, si vous voulez. Hein. Tous ceux qui ont cette espérance sur lui se purifient comme lui est pur. Alors, se purifier, quel est ce sens? Qu'est-ce que ça veut dire, se purifier? Le mot a originellement une signification cultuelle. Indiquant se retirer de ce qui est profane pour se dédier à Dieu. L'espérance de paraître dans la présence de Dieu, de voir Christ tel qu'il est, inspire nécessairement à ses bénéficiaires le désir d'éloigner tout élément profane qui obscurcit la vision de Dieu. C'est un certain Brooke qui a écrit ça. Je trouve que c'est une belle parole. Je la relis. L'espérance de paraître dans la présence de Dieu et de voir Christ tel qu'il est, inspire nécessairement à ses bénéficiaires le désir d'éloigner tout élément profane qui obscurcit la vision de Dieu. Alors ce mot « se purifie comme lui est pur » n'a pas seulement un sens comparatif, c'est pas comme Jésus est pur, comparaison, mais introduit aussi une notion de cause. À cause de son espérance, le chrétien ne peut pas vivre confortablement avec le péché. Ça, c'est un certain Hibert qui a dit ça. À cause de son espérance, le chrétien ne peut pas vivre confortablement avec le péché. Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu, écrira l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 7, verset 1. Purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit. Verset 4. Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. Jean a soin d'appeler un chat un chat. Peut-être là aussi en réaction au discours fumeux des faux docteurs qui troublaient les églises. L'iniquité, dans le texte original, ça s'appelle l'anomia. L'anomia, ça veut dire ce qui ignore volontairement, ce qui transgresse la loi divine. Paul dit de la loi qu'elle est sainte, spirituelle et bonne dans sa nature, et que sa fonction est de donner une connaissance claire du péché, en Romains 3, verset 20. Pratiquer le péché, c'est donc transgresser la loi de Dieu. L'apôtre Jacques nous rappelle que quiconque gardera toute la loi et faillira sur un seul point est coupable sur tous. Cela veut dire que nous ne pouvons pas nous permettre d'observer certains commandements en pensant que cela nous autorise à être plus négligents envers ceux qui nous gênent un peu plus. Pour dire les choses de façon triviale, nos bons points ne rattrapent pas nos mauvais. Verset 5. Or, vous le savez, il s'est manifesté, lui, pour enlever les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que l'ancienne alliance, la loi, malgré toutes ses qualités, avait un gros défaut. Elle ne pouvait conduire personne au salut. Moïse venait juste de recevoir les 10 commandements de Dieu, que Dieu lui avait donnés sur la montagne, et avant même qu'il ait eu le temps de redescendre, le peuple s'était livré à la plus obstinée idolâtrie. Heureusement, Dieu ne comptait pas sur la loi pour nous sauver, mais seulement pour mettre en évidence la gravité du péché. Et il a donné son Fils pour que son sang versé à la croix efface réellement nos péchés et nous purifie. Le Fils bien-aimé de Dieu a été produit sur la scène de ce monde précisément pour ôter les péchés. Et s'il a pu le faire, c'est parce que lui-même était sans aucune trace de péché. Alors le verset 6 nous dit « Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu ni ne l'a pas connu. » Ce verset peut nous paraître contradictoire avec, par exemple, au chapitre 1, verset 8, où Jean disait « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. » Et aussi au chapitre 2, verset 1, « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Alors là, pour comprendre ces apparentes contradictions, il faut bien regarder, en fait, là ça demande un peu d'exégèse, hein, le temps des verbes utilisés dans le texte original. En effet, les deux expressions « quiconque pratique le péché » du verset 4, « quiconque pêche » du verset 6, sont au présent, comme dans nos versions françaises littérales. Mais il faut savoir qu'en grec, la langue dont Jean s'est servi pour rédiger son épître, le présent signifie une action continue ou répétée. Et d'ailleurs, Jean va clarifier son propos dans les versets suivants, les versets 7 à 9. « Enfant, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement, le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » J'ai utilisé là la version d'Arbi parce qu'elle est très littérale, et c'est elle qui traduit le verbe « poieo », le verbe « faire » par « pratiquer ». Littéralement, si on voulait faire vraiment une traduction littérale, « le faisant la justice est juste, le faisant le péché est du diable. » Quiconque est né de Dieu ne fait pas le péché. Voilà les trois propositions littérales. Il faut comprendre ce verbe poieo, faire, effectivement comme pratiquer, comme c'est traduit dans, par exemple dans la Bible du Semeur. C'est-à-dire faire habituellement ou continuellement ou de façon répétée. Ainsi, Jean donne un test à ses lecteurs, par lequel ils peuvent éprouver la valeur de l'enseignement des faux docteurs. Si ces faux docteurs se livrent au péché en le minimisant du fait de leur théorie, ils sont en réalité du diable. Alors que Jésus a paru pour détruire ses œuvres, justement, les œuvres du diable. Alors comment pouvons-nous avoir communion avec ces gens-là? Et quand Jean dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, il décrit là l'état normal du chrétien. En revanche, celui qui persiste dans le péché, qui le pratique, manifeste par là que son père est en réalité le diable. En tout cas, pour ce que nous pouvons en juger au vu de sa conduite, il ne manifeste pas les caractères, j'allais dire génétiques, d'un enfant de Dieu. Et c'est ce qu'il conclut au verset 10. Par ceux-ci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. La suite du verset traite de l'amour, c'est un deuxième thème majeur de cette épître qu'on verra une autre fois. Alors, chers frères et sœurs, prêtons attention à l'avertissement de Jean au verset 7. « Enfants, que personne ne vous égare. » C'est-à-dire, ne nous abusons pas nous-mêmes et ne nous laissons pas non plus abuser par les autres. Le critère de la présence de la vie de Dieu en nous, c'est la sainteté. Nous savons bien qu'elle ne pourra jamais être parfaite tant que nous serons dans ces corps de chair. Mais c'est bien à la recherche de la sainteté, à l'imitation de notre Maître Jésus que nous sommes appelés. Et vous avez noté que cette aspiration est mise en rapport avec le fait de voir le Seigneur. Au verset 2, il est dit que nous lui serons semblables et nous le verrons tel qu'il est lorsqu'il sera manifesté, c'est-à-dire lors de sa venue, où sa vraie nature ne sera plus cachée, mais manifeste pour tous les hommes qui devront fléchir le genou devant lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 14, nous exhorte « Poursuivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur ». Vous voyez encore toujours la poursuite de la sainteté mise en rapport avec le jour de la venue du Seigneur, le fait de voir le Seigneur. À cause de son espérance, l'espérance du chrétien de voir son Seigneur tel qu'il est et de lui être rendu semblable, le chrétien ne peut pas vivre confortablement avec le péché. Je rappelle cette parole de M. Hibert. Puissions-nous ne jamais nous sentir confortables dans une situation de péché. Certes, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, mais ne nous laissons pas égarer par l'ennemi de nos âmes qui aimerait bien qu'on ne puisse pas finalement distinguer les enfants de Dieu des siens propres. Et donc, on l'a lu, Jean reprend cette question du péché à la fin de son épître, au chapitre 5. Il aborde là un des fruits de l'amour en rapport avec le péché, le fait de prier les uns pour les autres. Non seulement pour notre propre péché, bien sûr, mais aussi pour celui dans lequel nous voyons nos frères tomber. Et il distingue, on l'a lu, hein, les péchés qui ne mènent pas à la mort du péché qui mène à la mort. Alors les péchés qui ne mènent pas à la mort, ce sont ceux dans lesquels nous sommes en danger de tomber du fait de notre faiblesse. Le péché qui nous enveloppe si aisément, dont parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Nous sommes exhortés à prier pour les frères qui tombent ainsi, afin que Dieu leur donne la vie. Il ne s'agit pas bien sûr de la régénération, là, mais de retrouver la vie divine dans la lumière, la communion avec celui qui vivifie notre être et qui vivifie notre marche. Soyons sensibles aux péchés que nous constatons chez nos frères, non pour les condamner ou nous comparer à notre avantage, mais pour prier pour eux et demander leur pleine restauration, leur vivification, on pourrait dire. Jean ne demande pas qu'on prie pour le péché qui mène à la mort. C'est le péché suprême, c'est le péché d'incrédulité. Celui que Jésus nomme le péché contre l'esprit, dans un autre passage. On ne peut pas implorer le pardon pour le péché d'incrédulité, qui effectivement mène à la mort. On ne peut que prier pour la conversion de l'incrédule. Et puis on a ces merveilleux versets 17 et 18. « Celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. » Alors peut-être que vous n'avez pas cette traduction-là, parce qu'il y a des traductions très diverses de ce passage qui est un peu difficile. C'est la traduction du semeur qui dit ça. D'autres ont traduit « celui qui est né de Dieu se garde lui-même ». Peut-être que vous avez cette version-là dans vos Bibles. Je pense que si c'était le cas, nous serions bien peu en sécurité. La version que donne la Bible du semeur est grammaticalement très justifiable, et d'ailleurs le semeur n'est pas le seul à traduire comme ça, du fait des temps utilisés, une fois de plus. Littéralement, il faut lire « tout homme qui est né de Dieu ne pêche pas ». Le verbe « né de Dieu » est un temps qui s'appelle le parfait, c'est-à-dire un fait qui a eu lieu dans le passé et qui a encore des conséquences permanentes jusque dans le présent. C'est le cas du chrétien. Nous sommes nés un jour de Dieu et nous avons cette conséquence permanente, au moins théorique, que nous ne péchons pas. Et on a vu ce que Jean entend par « ne pêche pas ». Celui qui est engendré de Dieu le garde. Alors c'est le même verbe, engendré ou né, c'est la même chose, mais un autre temps qui s'appelle l'aoriste, qui désigne un fait unique et qui désigne habituellement dans l'Écriture le Fils de Dieu, l'engendré de Dieu, le Fils unique de Dieu. C'est la raison pour laquelle cette traduction me paraît la bonne. Ce qui veut dire que le chrétien ne peut pas commettre le péché qui mène à la mort, c'est-à-dire le péché d'incrédulité, parce que le Fils de Dieu le garde. C'est un des versets qui nous donne l'assurance de notre salut. Il n'y a pas que ce verset-là. Par exemple, Jean 17, verset 12 nous dit « Je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu. » Vous voyez donc l'action protectrice du Fils de Dieu en notre faveur. 1 Pierre 1, verset 5 « Il tient un héritage en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Et je vous propose de conclure par ce magnifique verset, ces deux magnifiques versets de la fin de l'épître de Jude, les versets 24 et 25. « À celui qui peut vous garder de toute chute, vous garder de toute chute, et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui appartiennent la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. »